Bonsoir, bienvenue dans cette émission de Souligner la Fête. Je vous propose trois thèmes à savoir. Journée internationale de la femme, égale accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles à la formation, égale accès aux mêmes opportunités pour un Congo paritaire. C'est le thème reçu en République démocratique du Congo pour cette journée. Ensuite, le président de la CENI, le pasteur Ngoï Moulinga, a rendu une visite mardi dernier au leader de l'UDP, Étienne Tshisekedi, et à Antoine Gizenga du Palou. Et en prévision de la révision de la loi électorale, le réseau des ONG des droits humains et d'éducation civique et rodestique en sigle propose que les gouverneurs et les sénateurs soient directement élus par la population. Et enfin, clôture aujourd'hui en Afrique du Sud de la conférence sur la RDC dont le thème est la transition en République démocratique du Congo vers et au-delà des élections de 2011. Participant à ce débat, trois consoeurs journalistes, il s'agit d'Israël Moutala, journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir Jim.
Dieudonné Moulamba, il est journaliste à la radio-télévision Malinge, il est mettant depuis Kananga au Kasaï occidental. Il est aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Bonsoir Dieudonné Moulamba.
Bonsoir chers confrères et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kasaï.
Victoire Eyobi devait être avec nous dans ce débat, mais malheureusement on n'arrive pas à les joindre. Nous allons suivre ces trajets de presse que nous propose Samuel Kachak pour savoir comment la presse chinoise a traité l'actualité de cette semaine.
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa ont largement commenté sur la journée internationale de la femme, les consultations du président de la CENI avec certains acteurs politiques congolais et la conférence organisée en Afrique du Sud pour le dialogue global à l'intention des représentants de la classe politique congolaise. Journée internationale de la femme, l'avenir constate que le 8 mars est pire que la Saint-Valentin. Selon ce journal, des petites filles en campagne jusque tard la nuit hors de la maison, des mères de famille dans des maisons de tolérance, c'est comme si le port de pagne est une licence, une permission de vivre au-dessus de son âge et en deçà de sa dignité de femme, commente ce journal. La tempête des tropiques, par contre, estime qu'à l'occasion de cette journée, la femme congolaise n'est pas valablement représentée au sein des institutions publiques. Ce journal affirme que sur les 500 députés nationaux, il n'y a que 40 femmes et au gouvernement, sur les 43 membres, il n'y a que 5 femmes. Au chapitre électoral, le phare titre « Élection 2011 », Ngoï Moulinga consulte Gizenga et Tshisekedi. Ce journal précise que c'était une visite de courtoisie et qui entre dans le cadre des contacts planifiés par la Commission électorale nationale indépendante en direction de ses partenaires politiques. Sur un autre registre, African News parle de la révocation de Nzanga Mobutu du gouvernement Mobutu. Ce journal avance comme raison de ce limogeage l'indiscipline et insubordination affichée par le leader de l'UDEMO envers le gouvernement. Son péché, explique African News, c'est d'avoir passé de longs mois en dehors de son poste de travail. Terminons cette revue de la presse avec Le Phare qui s'intéresse à la conférence organisée en Afrique du Sud par l'Institut sud-africain pour le dialogue global à l'intention des représentants de l'opposition politique, de l'ANP et de la société civile congolaise. Selon ce quotidien, les participants à ces assises ont mis en exergue le climat malsain qui prévaut en RDC. Pour l'opposition, cela est dû à l'entrave de la liberté de mouvement, de parole et de réunion, mais aussi à la révision unilatérale de la Constitution et à l'insécurité entretenue par le pouvoir en place. Par contre, poursuit ce journal, l'AMP empuise ses climats politiques aux mains noires qui entretiennent l'insécurité, aux ennemis du peuple congolais et tous ceux qui ont peur des élections.
Merci Samuel Kachak, un petit commentaire Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Et comment vous commentez le travail de la presse cette semaine?
Comme d'habitude, le travail de la presse est signé, c'est un travail de qualité, mais bon, Je pense que l'actualité brûlante, c'est plutôt le limogeage de Ndara Mobutu. Il faut le dire que c'était connu depuis longtemps qu'il n'avait plus le cœur à l'ouvrage et que moi j'estime que le gouvernement a trop tardé pour prendre cette décision qui s'imposait, ou plutôt que lui aussi a trop tardé pour déposer sa démission et tirer les conséquences du fait qu'il ne s'était jamais aussi bien senti dans le gouvernement.
Guédéli Moulamba, vous êtes journaliste à la radio-télévision Malangi, émettant depuis Kananga au Kasaï occidental. Vous êtes aussi correspondant du Digital Congo dans cette province. Quelle est l'actualité à la une dans cette province du Kasaï occidental?
Écoutez, il y a à l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental une situation qui prévaut depuis maintenant près d'une semaine. C'est un acte motivé des députés de l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental qui veulent relever de leurs fonctions les quatre membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ceux-ci sont de l'opposition et de l'AMP ensemble qui pensent que il faut que les quatre membres du bureau de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire le président, le vice-président, le rapporteur et les questeurs, puissent être relevés de leurs fonctions et qu'on puisse passer au vote des autres membres du bureau à leur place, parce que c'est dans eux le président et toute cette équipe sont en train de bloquer le fonctionnement normal de l'Assemblée provinciale par rigocher celui de la province du Kasaï occidental.
Merci. Avant d'aborder les débats, nous allons commenter cette actualité. Vous savez, Ndara Mobutu est révoqué de ses fonctions de vice-premier ministre, ministre du Travail et des Prévoyances sociales. Ainsi, en a décidé le président de la République, Joseph Kabila, par une ordonnance publiée jeudi soir à Kinshasa et rendue publique sur les antennes de la RTNC. Cependant, les raisons de cette révocation n'ont pas été évoquées. Bernard Diando Sango, qui est ministre du Commerce extérieur et des petites et moyennes entreprises, a annoncé aujourd'hui sa démission du gouvernement. Il faut préciser qu'il est membre de l'UDEMO, parti de Mobutu Zanga. Israël Moutala, ce qui était connu officiellement et rendu aujourd'hui officiel, de facto, Zanga Mobutu ne faisait plus partie du gouvernement. Effectivement, les dysfonctionnements du gouvernement sont légion. Et l'exemple de Zanga est l'exemple le plus patent. Comment peut-on faire 4 mois en dehors du pays en ne participant à aucun conseil de ministre, si conseil de ministre il y a, parce que les conseils de ministre également sont irréguliers, ce qui est injustifiable en démocratie, vu que notre pays a besoin que les gens qui sont investis du mandat public travaillent quotidiennement pour les arracher des griffes de la pauvreté. Donc, un ministre qui avait un portefeuille aussi important que celui de l'emploi ne peut pas se permettre des congés aussi prolongés que cela. Mais il faut dire que Ndara ne s'est jamais bien senti dans ce gouvernement. Il s'est toujours senti à l'étroit. Il estime que on lui a toujours mis le bâton dans les roues, qu'on ne l'écoutait jamais, que tout était fait pour le couler politiquement.
Pourtant, il a toujours été parmi les premières personnalités du gouvernement.
Tout à fait. Il n'était pas suffisant par lâcheté ou par opportunisme. Il n'a pas tiré les conséquences de ce constat que lui-même avait fait ou que ses proches font du fait qu'il ne s'est jamais bien senti. Rejeté par les siens, qui considéraient qu'il avait trahi leur cause, quand je dis les siens, ses frères qui l'ont élu à l'Équateur. Mais dans la majorité, justement, on ne lui donnait pas les moyens de s'épanouir, clamaient souvent ses proches. Mais quand c'est un tel constat, il faut en tirer les conséquences en démissionnant. Bon, peut-être qu'il avait une vision que ça allait s'arranger, il l'a pas fait. Mais du côté de ses alliés de l'ANC également, il faut reprocher le fait qu'ils n'ont pas été assez réactifs pour pouvoir prendre le devant et le domaine, qu'ils ne peuvent pas quand même attendre 4 mois, parce qu'on le savait déjà. Même quand il était au bureau, bon, enfin, il ne travaillait pas, il n'y avait presque pas de dossier. Donc, nous sommes là dans un cas patent de dysfonctionnement. Quand je vois que l'ordonnance présidentielle dit qu'il y a eu indiscipline, insubordination envers le gouvernement. Mais il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont aussi indisciplinés, qui ne respectent pas le Premier ministre, qui le saluent à peine. Bref, il règne une espèce de fin de règne, justement, du gouvernement, parce qu'il nous a poursuivi des élections. Et petit à petit, les masques vont tomber. Et donc, un réaménagement ministériel s'impose. Guédéli Moulamba, à votre avis, qu'est-ce qui peut avoir poussé Zanga à abandonner ses fonctions depuis 4 mois?
Bon, écoutez, c'est comme si Zanga était resté dans une illusion telle que, à un moment donné, les membres de l'AMC pensaient que on peut faire du n'importe quoi quand on a un mandat officiel, c'est-à-dire on peut ne pas être sur place, mais continuer à être compté parmi les ministres, parmi les mandataires de l'État. Alors, c'est ça qui a fait que ces gens ont pu comprendre que le chef de l'État pouvait les laisser en fait l'acheter là. Mais moi, j'ai apprécié la performance du chef de l'État en cette matière parce que il ne faut pas qu'on soit figurant alors qu'on a un grand poste politique. Le ministère qui animait les Zanga est très important par rapport à la vie du pays. On ne pouvait pas laisser les Zanga continuer à être à l'étranger. Je me pose la question, chaque fois qu'il fallait qu'on puisse avoir un répondant par rapport à son ministère, c'est qu'on intervient, qu'il devait répondre à tout moment, et si c'est comme ça les choses doivent se dérouler, c'est déplorable par rapport à notre pays. Donc c'est une performance à apprécier du côté du chef de l'État. Et puis, de notre côté, je me pose la question si les concertations étaient bien faites dans la formation politique des Zanga avant qu'ils soient proposés au chef de l'État pour cette nomination. Alors si ça n'a pas été bien fait, je pense que c'est parmi aussi les motifs qu'il faut évoquer. Et par-dessus tout, j'ai à un moment donné hypnotisé les relations qu'il y a entre Zanga Mobutu et les restes des membres de l'ANC. S'il y a eu à un certain niveau, à un certain moment, une trahison comme l'a soulevé Israël, je pense que c'est un motif qu'il ne faut pas négliger.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir, Journée internationale de la femme, égale accès des hommes et des femmes, des garçons et des filles à la formation, égale accès aux mêmes opportunités pour un Congo paritaire, c'est le thème retenu en République démocratique du Congo pour cette journée 8 mars, journée dédiée à la femme. À Kinshasa, plusieurs centaines de femmes ont défilé mardi dernier place du cinquantenaire devant le palais du peuple. Les filles du chef de l'État et des diplomates en poste en République démocratique du Congo étaient de la partie. Quel sens que les femmes ont donné à cette journée? Réponse avec vous, Suzanne Nzobo.
Pour la plupart de ces femmes, cette journée a pour but de rappeler le combat de la femme pour la parité homme-femme. Pour d'autres, par contre, il ne s'agit que d'une fête, et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle défile. La présidente de la Ligue des femmes du NDP, un parti politique, s'insurge contre cette perception de la journée de la femme. Pour elle, le défilé est le signe extérieur de l'adhésion des femmes au combat pour la parité. Patricia Tantou.
Nous sommes là pour dire que nous soutenons, nous adhérons à ce thème. Nous voulons vraiment que ce thème puisse s'appliquer dans notre pays. C'est pourquoi nous nous mettons debout pour que la maman comprenne quelle est sa responsabilité, que la maman comprenne que ce pays lui appartient aussi.
Le thème national de cette journée appelle à l'accès égal des garçons et des filles à l'éducation. Madame Moulamba Meka invite les femmes à matérialiser ce concept. Elle est présidente de la Fondation Femmes Espoir, une structure qui appuie les femmes vivant avec le sida.
Il y a des mamans, si tu as un homme et une femme, elles privilégient un garçon. Toi, on paye d'abord le minerva des garçons, toi, c'est d'abord à la maison préparer ou laver les assiettes. Ce n'est pas ça. Il faut distribuer ces minavas landais. Tu donnes aux garçons, tu donnes aux filles à la fille.
Notez que ce 8 mars, l'ambiance a été festive à la place du cinquantenaire.
Nous allons lire les lignes de certains journaux. Nous avons le quotidien L'Observateur qui dit ceci. Journée internationale de la femme, le gouvernement congolais déterminé à réaliser la parité. Nous avons le quotidien Forum des As qui dit Journée internationale de la femme à Kinshasa, un défilé monstre sur le boulevard triomphal mardi dernier. Et nous avons le quotidien L'Avenir qui dit dérive à Kinshasa le 8 mars, pire que la Saint-Valentin. Israël Moussala, lorsque vous lisez le thème national de cette journée, vous allez vous rendre compte que le message véhiculé tourne autour de la parité. Hein. On peut affirmer que l'application du principe de la parité est un cheval de bataille pour la femme.
Tout à fait, mais moi j'ai jamais compris parfaitement le concept de parité. J'espère que parité ne veut pas dire égalité, mais je suis solidaire avec les femmes congolaises qui souffrent. Je suis solidaire de leur combat, parce que je pense que les femmes doivent avoir les mêmes opportunités que les hommes, qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. Et donc, le thème de cette année, encore une fois, le combat pour la dignité de la femme passe indubitablement par l'accès à l'éducation. Quand une femme n'est pas éduquée, n'est pas instruite, indubitablement, il n'y aura pas accès ou reconnaissance de sa dignité. Donc, il y a encore une autre question qui m'interpelle ici, au-delà des défilés, au-delà de discours, au-delà de d'épagne. Ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles je n'irai pas m'attarder parce qu'à mon sens, n'entend aucun sens. J'aimerais que que l'on travaille, par exemple, à assurer justement des soins de santé primaire, surtout aux femmes, parce qu'il y a un taux élevé de femmes quand elles accouchent. Donc je parle là de la mortalité maternelle. Quand les femmes accouchent, elles connaissent la mort. Il ne faudrait pas que dans notre pays, par exemple, qu'une femme en donnant la vie puisse rencontrer la mort. Donc pour moi, il y a deux axes prioritaires sur lesquels il faut travailler pour que les femmes accèdent à leur dignité, c'est l'éducation et la santé. Sur la question de l'éducation, une maman a dit ici que quand une famille n'a pas assez de frais de scolarité, elle privilégie le garçon. Mais pourquoi ? C'est parce que dans les mentalités des Congolais, parfois, on se dit qu'un homme doit se battre dans la vie pour fonder un foyer, pour se marier. Donc on donne à l'homme, au jeune garçon, les moyens de se défendre dans la vie. C'est une conception. Et à la femme, on pense que si elle échoue avec les études, elle pourra se rattraper par un mariage. Voilà ce qui motive en principe les parents. Mais il faut travailler aussi sur les mentalités des Congolais pour faire évoluer les choses. L'idéal serait que tous les deux enfants, filles comme garçons, aillent à l'école. Et ça, il faut rendre effective la gratuité de l'école, la gratuité de l'enseignement. Voilà des chantiers qui me semblent, à mon sens, prioritaires.
Didier Moulamba, pour mettre un accent sur l'éducation et sur la santé de la jeune fille, et lorsque aujourd'hui vous voyez l'importance que la RDP accorde à cette journée, qu'est-ce que cela vous inspire?
Écoutez, je commence par apprécier positivement les efforts des ONG des droits de l'homme et certains organismes internationaux en rapport avec le travail que ces ONG sont en train d'abattre par rapport à la femme. Aujourd'hui, dans certaines institutions, après ce travail, il y a eu la présence de femmes, même à un faible pourcentage, mais on en a quand même. Mais par rapport à votre question, vous savez que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup à faire quand il faut intégrer la femme dans la gestion de la chose publique. Parce que il y a des choses qui ne permettent pas à la femme à se retrouver dans ce qui se passe dans le pays. Par exemple, les coutumes. Israël venait de le dire. Nous sommes dans un pays où les coutumes donnent l'image inférieure pour la femme. Donc la femme est considérée comme une personne d'une autre valeur que l'homme. C'est ça qui fait que même quand on doit mettre en place certaines institutions, même quand on doit recruter dans certains services de l'État, on donne peu de place à la femme. Et c'est à ce niveau que je vais rejoindre Israël quand il dit qu'il y a un grand travail à abattre pour pouvoir remettre la valeur qu'il faut à la femme en République démocratique du Congo et lutter contre tout ce qui se trouve dans la mentalité du Congolais qui pense que la femme doit être normalement inférieure à l'homme dans tout ce qui doit se passer dans le pays. Autre chose, c'est par rapport au thème national qui est évoqué pour cette année en République démocratique du Congo, c'est le mariage précoce qui semble aussi bloquer certaines choses. Quand il faut que les filles puissent étudier, on donne plus d'importance aux garçons, pensant que la fille, si elle n'arrive pas d'étudier, elle peut se rattraper avec le mariage. C'est vraiment courant, surtout au Kassai occidental où moi je me trouve. Le mariage précoce bloque beaucoup de choses dans nos villages, voire même sur la ville ici. C'est quand même qui a poussé autrefois les autorités de la ville de prendre des dispositions telles que s'il arrive qu'un prêtre, qu'un pasteur puisse venir un mariage entre mineurs ou entre adultes et mineurs, ce pasteur sera poursuivi. C'est pour autant dire que l'égalité des chances ou l'égalité d'accès à l'éducation pour les femmes est un peu difficile avec ce qu'il y a comme mentalité aujourd'hui. Si on attaque le problème à ce niveau-là, moi, je pense qu'il y aura possibilité de relever le niveau de la femme dans sa participation à tout ce qui se passe dans le pays. C'est pratiquement ça que je trouve normal et faisable.
Dominique Moulamba, vous êtes à Kananga au Kasaï occidental. Et comment la femme de Kananga a célébré cette journée?
Franchement, c'était une grande fête pour la population, surtout du côté féminin, parce que nous avons vu a assisté à un grand défilé qui a fait plus de 3 heures sur la place de l'indépendance en pleine ville de Kananga. C'est vrai aussi qu'il y a eu des petits problèmes de blocage des fonds, ça et là, la journée n'a pas été bien organisée, mais la sensibilisation a été quand même faite, et puis la femme a semblé prendre conscience pour venir participer à cette journée, malgré tout ce qu'il y a eu comme blocage, et pour certaines femmes, il fallait penser à être consciencieuse pour pouvoir retrouver sa place dans les institutions publiques et dans la gestion de la chose publique en général.
Israël Moutala, c'est depuis quelques années que cette journée est célébrée avec faste, mais en dépit de cela, la femme continue d'être violentée, ses droits ne sont pas toujours pris en considération, et c'est quand même un paradoxe.
C'est triste, parce que moi j'aimerais que cette journée, moi je ne veux pas qu'on en fasse une célébration, ça doit être une journée de réflexion pour comment nous nous mettions autour d'une table, nous réfléchissons à comment améliorer les conditions de vie de la femme. Parce que nous sommes dans un pays où nos mamans, où nos jeunes filles, où nos mères sont violentées sexuellement, surtout à l'est du pays, et même cette pratique commence à se banaliser de plus en plus à Kinshasa. Donc ce sont des choses qui m'attristent au plus profond de moi-même, et ce sont des choses comme ça, nous devons y réfléchir pour y mettre définitivement fin, pour rendre à la femme sa dignité. C'est vrai qu'il y a eu un défilé, c'est vrai qu'il y a eu Kinshasa pour parler de Montongué, les débuts de boissons, il y avait plein de dames en panne là-bas qui, après le défilé, cela coulait doucement. Enfin, on peut se poser la question, mais bon, c'est pas ça le 8 mars. C'est pas ça le 8 mars. Le 8 mars, c'est pas une journée de réjouissance parce que, comme on l'a dit, toutes les statistiques le démontrent, la condition de la femme est guère et vivante. Elle est sous-représentée dans les sphères décisionnelles, elle est sous-représentée au gouvernement, au parlement, et tout ça. Pourquoi? Parce que même en dépit des diplômes, il y a un autre barrage qu'il faut briser au niveau de la femme elle-même, c'est qu'elle peut s'engager. Vous n'allez pas pousser. Par exemple, quand vous allez aujourd'hui dans les partis politiques, vous regardez les militants de base, il y a très peu de femmes. Et donc, quand il y a très peu de femmes comme militants de base, il y aura très peu de femmes comme cadre de ce parti, et partant comme dirigeant politique, et que sais-je encore. Donc, il y a un grand travail à faire dans la femme, dans la société et dans les structures de l'État pour l'encadrement de la femme. Mais j'insiste avec les deux volets prioritaires, l'accès à l'éducation et l'amélioration des soins de santé, surtout pour la maman qui va accoucher.
Et la réalisation nationale que Victoire Eyobi est en ligne. Bonsoir Victoire Eyobi.
Bonsoir.
Oui, nous parlons de la journée internationale de la femme, et je vais vous poser une question. Le principe de la parité est consacré dans la constitution de la République démocratique du Congo, mais comment expliquer le fait que la loi sur les mesures d'application ne soit toujours pas adoptée au Parlement? Apparemment, ce n'est pas parmi les priorités. C'est aussi lié à la coutume, comme l'a évoqué Israël Moutala.
Moi, je ne crois pas que c'est un problème de coutume, mais c'est plutôt un problème du combat de la femme. C'est-à-dire que les femmes devraient voir comment prendre en compte cette nouvelle donne et se battre sur le terrain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se saisir du principe et voir comment mener des campagnes auprès des différentes institutions, auprès de tous ceux-là qui ont une décision, de manière à mettre en vigueur cette disposition de la loi. C'est une très bonne chose, mais je crois qu'il faut aller par étapes. Et dans ces étapes, il y a cet aspect de la prise de conscience. Je me dis qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont besoin d'être éveillées, et les journées comme celle du 8 mars devraient en principe servir à éveiller la femme, à lui faire prendre conscience de ses capacités, de ses potentialités. Vous savez, une récente étude de la Banque mondiale a démontré qu'il y a environ 55% des femmes en RDC. Je crois que c'est beaucoup. Et même sur le plan électoral, je crois que les politiciens seront obligés de tenir compte de cette frange de la population. Donc, c'est une question d'État et une question de combat et de prise de conscience.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Le président de la CENI, le pasteur Ngoï Moulunga, a rendu visite mardi dernier au leader de l'IDPS, Étienne Tshisekedi, et à Antoine Gizenga du Palou. Et en prévision de la révision de la loi électorale, le réseau des ONG des droits humains et d'éducation civique redossier sensible propose que les gouverneurs et les sénateurs soient directement élus par la population. La question de la révision de la loi électorale de 2006 a préoccupé les organisations de la société civile et va dans le domaine électoral. Réuni en session la semaine dernière à Kinshasa, les participants ont proposé aux politiques la vision du peuple congolais pour qu'il y ait des élections réellement libres, démocratiques et transparentes. Une vision qui fera l'objet d'un plaidoyer des acteurs non étatiques auprès des politiques. Jean-Baptiste Ndindou, secrétaire exécutif intérimaire du réseau des ONG des droits humains, d'éducation civique, d'obédience chrétienne, rodécique en sigle, nous parle des dispositions susceptibles d'être révisées. Il répond au micro de Stéphane Mukendi.
Il y a particulièrement de l'expérience que nous avons eue à l'observation électorale en 2006. Nous nous étions bien rendu compte que le suffrage universel indirect posait problème. Et on s'était dit que pour arriver à voir les élus produire des effets suffisamment bénéfiques pour les populations, il était important qu'un certain nombre d'élus au suffrage indirect puissent l'être de manière directe. Il y a l'élection des sénateurs, mais il y a aussi l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient élus dans les assemblées provinciales. Nous, on aurait voulu que la population vote directement et les gouverneurs et les sénateurs. Il y a aussi la parité homme-femme. Nous avons constaté que lors des élections de 2006, cette parité n'a pas été respectée. Si les listes sont des listes qui sont zébrées, on pourra permettre à ce que la femme soit suffisamment représentée. Nous pensons qu'il est important, particulièrement en ce qui concerne la localisation des bureaux de vote, qu'on puisse effectivement ne pas permettre à ce que les distances soient trop éloignées, parce que ça décourage les électeurs. Il est important que même dans la loi électorale, on fixe un maximum de kilométrage, un maximum de distance entre deux bureaux de vote, pour permettre à tous les électeurs de pouvoir effectivement accomplir leurs droits. Avec l'acquisition des passeports, on pourrait se servir de cette base-là également pour pouvoir prendre en compte ces Congolais vivant à l'étranger. S'il est possible de les identifier, on peut les enregistrer et leur permettre effectivement de pouvoir jouir de leurs droits.
Nous allons lire l'hymne de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit ceci: remise en question du processus électoral. 6 décembre 2011, le président de la CENI a peur. Le quotidien L'Avenir dit ceci: président de la CENI, c'est Gizenga et Tshisekedi, Daniel Ngoï Mulunda consulte la classe politique. Nous avons encore le quotidien Le Palmarès qui dit: délai constitutionnel, le bureau de la CENI entre les marteaux et l'enclume. Israël Moutala, comment vous analysez cette approche du président de la CENI, approche qui consiste à rendre visite à certains leaders des partis politiques qui sont du reste ses partenaires dans le processus électoral?
Pour ma part, je considère que cette démarche est une démarche, elle est la bienvenue parce qu'elle serait consensuelle. Il faut se dire que, par exemple, que l'UDPS est une force politique plus qu'évidente, mais qui n'est pas représentée dans le bureau de la CENI, comme les autres forces politiques de l'ANP ou comme le PALU. Et donc, il est tout à fait normal que le président de cette institution citoyenne puisse aller consulter certaines personnalités éminentes de la scène politique. Et donc, moi, ça s'inscrit dans le sens d'apaiser le processus électoral futur, de donner toutes les garanties de transparence et de crédibilité à ce processus qui est acquis à un nouveau bureau. Pour moi, en tout cas, la démarche du pasteur président est la bienvenue jusque-là, en tout cas, parce qu'elle tente à rassurer les uns et les autres, parce que cette élection, il ne l'a fait pas pour lui, il l'a fait pour le peuple congolais, en partenariat avec ceux qui encadrent les suffrages, qui sont les partis politiques, et donc c'est une bonne approche.
Victoire Yobi, cette démarche peut-elle avoir quel effet à votre avis? Israël Moutala dit qu'elle est susceptible de rassurer les partenaires et elle peut faire dissiper les malentendus et les suspicions, à votre avis?
Exactement, parce que déjà au début de cette année, vous savez, il y avait quelques malentendus, ça provoquait des tensions. Moi, je crois qu'il faudra maintenant baliser le chemin. Et c'était tout à fait sage pour le nouveau président, d'autant plus qu'au début d'un mandat, il y a lieu de faire d'abord l'état des lieux, mais de prendre langue avec les principaux acteurs. Comme Israël l'a dit tout à l'heure, il y a ceux qui sont représentés dans le bureau et ceux qui sont en dehors du bureau. Donc c'était très important d'associer tout le monde, parce que en définitive, ce sont en réalité les partis politiques, ce sont les associations et autres qui pourront prétendre un jour se présenter. Alors il y a lieu de voir comment les impliquer dans une démarche qui soit consensuelle. Et c'est dans ce sens également que moi je pense que s'il faudra par exemple un jour modifier les dates, et là pourra se faire facilement parce que ça viendra du consensus, ça viendra de l'avis de tout le monde et ce sera pour le bien et l'harmonie du déroulement de ces processus. Donc je trouve que c'est très sage et plus prudent et qu'il y a lieu maintenant d'être réaliste sur les terrains en fonction des moyens dont il dispose, voir comment il pourra planifier, comment réaliser finalement ces grands projets.
Guédéné Moulamba, au sujet de la révision de la loi électorale, vous êtes au Kasaï occidental où le gouverneur de cette province a démissionné récemment. Et comment vous appréciez la proposition du Rodécycle qui pense que le gouverneur et les sénateurs devraient être élus directement par la population?
Je me suis à un moment donné cru être en intelligence avec cette ONG parce que revoir la loi électorale, c'est vraiment idéal parce que jusqu'ici, l'élection au deuxième degré des gouverneurs et des sénateurs semble être une façon de donner le pouvoir aux gens, mais de manière légère. Si vous voyez aujourd'hui les gouverneurs et les sénateurs, vous pouvez vous dire qu'ils n'ont pas tellement le pouvoir qui leur est donné ou le mandat qui leur est donné par la population. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, cette proposition de révision de la loi électorale a sa place dans la mesure où aujourd'hui, l'élection des gouverneurs de province et des sénateurs, c'est vraiment de la mascarade à chaque fois qu'il faut qu'on procède à ça. On se propose candidat gouverneur, on a de l'argent, on est sûr qu'on va passer. Donc, c'est derrière ça à quoi on a assisté pour l'élection du gouverneur, pour la première législature de ce mandat. Moi, je me dis que c'est bien que ce pouvoir soit donné par les souverains primaires, que la population, au lieu que ça puisse être les députés qui passent à l'élection des gouverneurs et des sénateurs. Autre chose, c'est que il y a des gens, par exemple des sénateurs, qui se sont votés même par 3 députés seulement. Moi, j'ai un cas concret, palpable, d'un sénateur qui a été voté ici au Cap Occidental par 3 députés seulement. Vous pensez que quelqu'un comme ça a vraiment la confiance de la population? Pour ce qui est de l'élection des gouverneurs, telles que les choses ont été décrites au départ dans la loi électorale actuelle. Mais écoutez, il y a des gens qui se permettent d'imposer des candidats aux autres. C'est-à-dire, on réunit un groupe de députés, on leur dit, pour nous, vouloir ou pas, vous devez voter pour celui-ci et on vous donne ça comme rétribution. Ces solutions-là rendent les gouverneurs, une fois élus, un peu têtus. Ils se disent, mais écoutez, je connais la voie par laquelle je suis passé gouverneur et pour être déçu avec les parapluies que j'ai aujourd'hui, il est un peu difficile. Il faut que ça passe par la même voie. Donc, c'est pratiquement préférable qu'on puisse revoir la loi électorale pour que les gouverneurs, une fois élus, puissent savoir que le pouvoir est l'élu du peuple. Et si le peuple trouve que je ne suis plus en mesure, il y a possibilité que je puisse se déplacer. Et comme ça, les gens doivent se mettre au travail. Et d'ailleurs, le pasteur Ngoï Mulunda, qui est pour le moment au Kasaï occidental, dans la ville où je me trouve à Kananga, a confirmé aussi ces faits à une question que moi-même je lui ai posée. Il a dit que la révision de la loi électorale est inévitable de toutes les façons.
Israël Moussala, le suffrage universel indirect pose problème quant à ce qui concerne l'élection des gouverneurs, alors qu'il y a des scientifiques qui pensent qu'on ne devait pas organiser l'élection des gouverneurs, qu'on devait en fait procéder comme on le fait à l'Assemblée nationale, et la majorité au sein de l'Assemblée provinciale doit désigner un gouverneur qui devait avoir comme mission d'appliquer les programmes de cette majorité.
Bon, il y a un problème avec le suffrage indirect ici dans le pays, parce qu'on a vu, par exemple, l'interprétation qui nous fait ça ici, c'est que le suffrage, ce sont des élections provinciales, le suffrage direct avait totalement désavoué l'actuelle majorité, mais à la tête de la ville de Kinshasa, vous avez M. Kimbuta, qui est gouverneur. C'est une distorsion du suffrage exprimé, parce que je vous rappelle que le gouverneur a été battu et aux législatives et au local ici à Kinshasa. Donc comment une personne qui a perdu toutes ses élections au suffrage direct peut se retrouver par la magie du suffrage indirect gouverneur? C'est quand même une distorsion de la démocratie. Il faudrait absolument corriger ça. Mais la correction actuellement, ça serait un peu difficile parce qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on a pu déceler certaines anomalies du processus électoral qui doivent être corrigées, mais maintenant, si on doit revoir de fond en fond de la loi électorale, je pense que ça risque de retarder les échéances électorales. Je pense qu'il y a une question de priorité. La priorité aujourd'hui, c'est d'aller d'abord aux élections dans les délais constitutionnels, et je pense qu'après, on pensera à la question de la modification de la loi électorale.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. Clôture aujourd'hui en Afrique du Sud de la conférence sur la RDC, dont le thème est la transition en République démocratique du Congo vers et au-delà des élections de 2011. Organisée par l'Institut sud-africain pour le dialogue global IGD en sigle, ces assises réunissent plusieurs participants congolais de toutes les tendances de l'opposition politique, de la majorité présidentielle et de la société civile.
Kabyle. Qu'est-ce qui justifie la tenue de cette conférence à quelques mois des élections en République démocratique du Congo et quels sont ses objectifs? Des éléments de réponse avec Samuel Kachaka.
Selon le projet pour l'observation et le plaidoyer sur la gouvernance en Afrique, AFIMAP, la violation des principes fondamentaux de la démocratie et la faible participation politique ont contribué à la longue crise que vit la RDC depuis les années 90. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence qui se tient en Afrique du Sud. D'après les organisateurs, ces assises ont entre autres objectifs de faciliter un débat sincère entre acteurs politiques congolais et les citoyens congolais, de dégager le consensus sur les acquis de la Troisième République, de développer une liste d'obligations minimales à observer par les politiques et les citoyens, et enfin de convenir d'un mécanisme de préservation des ces acquis lors des échéances de 2011. Selon l'AFIMAP, la présente conférence débat est une suite de la série amorcée depuis le mois dernier entre les acteurs politiques et ceux de la société civile. Elle s'inscrit dans la logique de faire repartir les principes fondamentaux de la démocratie et de la participation politique sur des plus solides bases à la veille des prochaines élections générales. Toujours selon les organisateurs, les recommandations de cette conférence seront versées dans un acte d'engagement à respecter que la société civile améliorera au cours d'une séance de finalisation qui se tiendra au mois de mai prochain à Kinshasa. Cette charte sera signée volontairement et vulgarisée avant la tenue des élections de 2011.
Victoire Eyobi, vous êtes directeur de publication du magazine Entreprendre, c'est un magazine qui paraît ici à Kinshasa. Et comment avez-vous accueilli cette nouvelle faisant état du dialogue des Congolais en Afrique du Sud?
Je crois que c'est une très bonne chose. Vous savez, à la veille des grandes échéances comme les élections qui arrivent chez nous, il y a lieu de voir comment multiplier de telles initiatives. Mais ce que nous déplorons, c'est que la réflexion vienne toujours de l'extérieur. L'extérieur, vous savez, a ses ambitions, a sa vision des choses, et c'est tout à fait normal qu'on finisse, que ce soit la vision extérieure qui nous soit imposée. Et vous savez, nous avons toujours déploré ces genres de démarches. Donc je me dis qu'au niveau d'abord interne, il y a lieu que les Congolais, les intellectuels congolais, prennent leurs responsabilités en main pour voir comment sensibiliser les populations, comment sensibiliser la classe intellectuelle, comment sensibiliser les ONG, les partis politiques qui sont dans le pays. Moi, je crois que c'est une réflexion interne à plus d'efficacité que quelque chose préparé de l'extérieur où on va vous imposer certaines idées, certaines directives et qui auront finalement difficile à être appliquées sur le terrain. Le principe de la réflexion est bon, mais je souhaiterais que ça vienne des Congolais eux-mêmes.
Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique qui paraît ici à Kinshasa. Et selon les organisateurs de cette réunion, la rencontre de l'Afrique du Sud se justifie par le fait qu'il y a nécessité de discuter sincèrement des problèmes de la nation congolaise, surtout que cela n'a jamais été fait depuis les élections de 2006. Victoire Eyobi dit que l'initiative est bonne, mais malheureusement, elle vient de l'extérieur.
Mais on n'a pas à s'étonner. Les Congolais sont toujours impressionnés par ce qui est extérieur. Mais bon, parce que les partenaires politiques ne se font pas mutuellement confiance, la perche qui leur a été tendue par les Sud-Africains a été saisie, heureusement. Bon, moi je souhaite tout ce qui est dialogue, tout ce qui est rencontre pour apaiser les tensions, pour baliser le chemin des élections. Pour moi, c'est quelle que soit l'origine, des initiatives pareilles sont les bienvenues. Nous sommes à la veille des élections et on sentait que la tension montait dangereusement. Il faudrait absolument qu'il y ait des gens qui mettent tous les partenaires politiques autour d'une table pour leur dire ça suffit, arrêtez avec cette folie innocente, nous n'avons qu'un seul Congo et ne le brûlons pas.
Et donc il y a opportunité d'organiser une telle conférence.
Bien sûr, il y a opportunité. Rappelez-vous justement, par exemple, actuellement, tout ce qu'il y a eu autour de manifestations de l'opposition qui n'ont pas pu se réunir, Kamere à l'intérieur du pays qui n'a pas pu tenir de meeting. Ici, il y a un problème de sécurité à gauche et à droite. Bref, l'opposition a un chapelet de réponse à adresser au gouvernement. Le gouvernement qui est le garant justement de l'ordre constitutionnel, de l'ordre public, doit favoriser justement l'expression de liberté individuelle. Donc il y a et public. Donc il y a tout ce problème à le mettre sur la table parce que nous allons dangereusement vers une pente glissante. Alors les élections en soi ne sont pas une fin. Les élections doivent nous conduire à plus de stabilité, à plus de démocratie, à plus de progrès social. Donc aujourd'hui, il est plus que temps que les acteurs politiques puissent se mettre autour d'une table et se dire, voilà, les règles du jeu, ne faisons pas ceci, ne faisons pas cela. Mais encore une fois, les actes d'engagement qui sont signés par nos politiques sont très peu respectés. Donc moi, je fais partie d'une sorte de mécanisme contraignant pour faire respecter. Mais je ne fais pas d'illusion non plus. J'en appelle au bon sens, là aussi je ne fais pas d'illusion, au bon sens des uns et des autres pour que la paix et la stabilité triomphe au-delà de toutes les autres considérations.
Sidney Moulamba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision Malangi, en étant depuis Kananga au Kasai occidental. Vous êtes aussi correspondant de Digital Congo dans cette province. Et une certaine opinion parle de Saint-Sitri bis. Est-ce que c'est votre avis?
Bon, ce n'est pas forcément mon avis, mais seulement je me pose la question de savoir pourquoi une conférence qui va dans les intérêts de la République démocratique du Congo doit être organisé dans un autre pays. Je me pose la question aussi de savoir si ce n'est pas une façon pour les acteurs politiques de la République démocratique du Congo d'extérioriser leur faiblesse. Donc, ici sur place dans le pays, il y a possibilité, juste là à mon sens, d'organiser des pareilles assises et discuter de l'avenir du pays après, avant et après les élections, et trouver solution. Parce que si on doit attendre que ce soit une ONG comme celle qui organise aujourd'hui ces assises, viennent trouver solution à nos problèmes, il y a possibilité que, comme Israël l'a dit tout à l'heure, qu'on puisse nous imposer certains préalables qui risquent de nous mettre en difficulté un peu plus tard, ou qui risquent de nous faire perdre le fil d'idée par rapport à nos problèmes, nous, Congolais. Et on risque d'aborder dans ce qu'on nous a donné et de manière aveugle. Je pense, à mon sens, qu'il ne fallait pas que ces assises puissent s'organiser ailleurs et qu'elles puissent se faire sur place dans le pays. Mais si c'est dans le but de pouvoir prendre des précautions en rapport avec les élections qui pointent à l'horizon, nous pouvons à un certain degré saluer ces assises, mais souhaiter que ceux qui y vont puissent savoir que on doit tous se mettre ensemble pour pouvoir combattre pour l'intérêt de notre pays. Et non vouloir se tirer, ou bien tirer de son côté les draps tout le temps pour pouvoir donner l'occasion à des querelles ça et là, et comme ça on va faire venir les ONG internationales pour pouvoir nous mettre ensemble. C'est vraiment quelque part inconcevable, et c'est du manque de la maturité politique et du manque de volonté politique quand ça concerne le développement de notre pays.
Merci à Victoire et Yobi, à Israël Moussala, à Dédéné Moulamba. C'est la fin de cette émission. Paul Badianyama était à la technique, et Kalim Foufé à la réalisation, assistée de Samuel Kachak, sous la supervision de Pédé Kipela Mondo, de Martin Cro Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Kaki. Thank you.